Bonjour à toutes et à tous, c'est reparti pour une nouvelle édition de Grand Bien vous fasse grand format. Comme tous les mardis, nous retrouverons vers 10h05 la chronique d'Alex Vizorek. Avant cela, nous prendrons le temps de réfléchir et de philosopher un peu avec Aïda Ndiaye. Nous ouvrirons la deuxième heure avec le regard de l'astrophysicien Hubert Reeves sur le moment que nous vivons. Puis nous prendrons le temps de cuisiner avec le chef Grégory Cohen. Aujourd'hui, au menu cannelloni, ricotta épinard et pommes au four à la vanille. Nous aurons aussi le plaisir de retrouver Éric Libiot pour sa chronique « Chose presque vue ». Et puis, vous avez remarqué qu'en 2 mois et demi, notre vocabulaire s'est enrichi. Déconfinement, distanciation sociale ou encore coronapéro, ce sont des mots, des expressions que nous n'avions jamais employées auparavant. Et pour cause, ils n'existaient pas dans la dernière partie de l'émission avec la linguiste Laëlia Véron et le lexicologue Jean Pruvot. Nous verrons comment les mots naissent, évoluent et parfois tombent dans l'oubli. Mais pour commencer, nous allons nous intéresser à un rêve partagé par bon nombre d'entre nous, changer de vie, qui n'a jamais éprouvé l'envie de tout plaquer pour mieux recommencer autre chose, ailleurs, différemment, déménager, quitter la ville pour la campagne ou l'inverse, donner un nouveau tournant à sa vie professionnelle, adopter un mode de vie davantage en accord avec ses convictions et ses aspirations profondes. La perspective d'un changement aussi radical peut faire envie, elle peut aussi faire peur. Alors comment être sûr de ce que l'on veut vraiment? Quelles sont les bonnes questions à se poser avant de se lancer? Et comment s'y prendre pour éviter que le rêve ne se transforme en cauchemar? Nous allons en parler avec 3 invités que je vous présente dans une poignée de secondes. Et puis avec vous, bien sûr. Vous avez entrepris un changement de vie radical, une reconversion étonnante. Racontez-nous. Vous pouvez aussi interroger nos invités si vous avez besoin de conseils avant de franchir le pas. Pour intervenir, il y a la page de Grand Bien vous fasse sur franceinter.fr ou le 01 45 24 7000.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Daniel Fievé.
Et avec vous, pour parler reconversion et changement de vie, il y a Christelle Capochichi. Vous êtes médiatrice littéraire, formatrice pour les métiers du livre et vous venez de publier aux éditions Diaténo, libre de changer de vie en solo, en duo ou en famille, s'installer ailleurs et travailler autrement. Bonjour Christelle Capochichi.
Bonjour Daniel Fievé.
Vous avez même changé plusieurs fois vous-même de lieu de vie et de métier, je crois.
Oui, tout à fait. J'ai notamment fait ce changement très classique de quitter Paris pour la province, pour la campagne même. Et ensuite, j'ai fait le choix de revenir en ville. Donc c'est aller et retour, même si je ne suis plus à Paris, mais j'habite Nantes désormais.
Ouais. Les changements ne sont pas toujours définitifs, même s'ils sont radicaux. Également avec nous, Philippe Gabillet, professeur de psychologie et de développement personnel à l'ESCP Europe. Vous êtes l'auteur de L'art de changer de vie en 5 leçons aux éditions Saint-Simon. Bonjour Philippe Gabillet.
Oui, bonjour Daniel.
Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de la proportion de Français qui ont ce rêve plus ou moins secret, qui souhaitent changer de vie?
Disons que les quelques chiffres qu'on a concernant ceux qui l'affirment, dans les dernières études qui ont été faites, c'était à peu près 7 Français sur 10 qui disent que dans le fond ils voudraient et qu'ils y pensent. Et dans ces 7 sur 10, il y en a quand même 20% qui disent qu'ils y pensent fréquemment et il y en a 1 sur 5 en gros qui affirme qu'il serait prêt à tout quitter pour changer de vie.
Ouais, et cette toute catégorie professionnelle confondue, on observe cette proportion.
Oui, ça au niveau des catégories, ce qui est plutôt intéressant, si vous voulez, c'est surtout les catégories sociales. C'est-à-dire que il y a quand même 75% de femmes dans cette là-dedans. Au niveau âge, c'est vraiment les actifs. Les 35-49 ans représentent 80% de ces gens qui voudraient changer de vie, avec quand même aussi les 18-24 ans, donc vraiment les jeunes autour de 79-80%. C'est globalement assez bien réparti.
Ouais, c'est une tendance qui va s'accentuant au cours de ces dernières années.
Oui, très probablement, puisque elle est liée en fait au sentiment. Il y a deux choses qui vont créer ça. le fait que la vie, par exemple la vie urbaine, les avec tous ces aléas, fait que de plus en plus de gens disent je dois pouvoir vivre autrement. Donc il y a une espèce de prise de conscience, pour certains en tout cas, que la vie qu'ils mènent n'est pas celle qu'ils voudraient vivre. Et surtout, on vit dans un monde où le champ des possibles, on pourrait dire, est colossal. C'est-à-dire que quelqu'un qui voulait changer de vie à la fin du 19e, du 19e siècle, c'était très très compliqué. Quoi. Les gens, ils naissaient, ils mouraient quasiment dans un rayon de 30 km autour de là où ils étaient venus au monde. Mmh. Aujourd'hui, on peut voyager plus facilement. Bon, en ce moment, c'est peut-être pas la bonne.
Oui, c'est ça. Le rayon, c'est 100 km aujourd'hui.
Voilà. C'est à peine plus. Mais tout ça va passer. Tout ça va passer. Et on reste quand même dans un monde de grande mobilité, mobilité d'ailleurs de l'esprit, mobilité des corps. Et c'est vrai que l'idée selon laquelle on est peut-être pour certains en train de passer à côté de sa vie, où on n'a pas la vie que l'on devrait avoir ou qu'on mériterait, cette idée-là est largement développée et voilà. Et je pense qu'on aura cette dynamique devant nous encore pendant pas mal de temps.
Bonjour Yves Deloison.
Bonjour.
Notre troisième intervenant, vous êtes journaliste et écrivain et vous avez écrit « Réussir sa reconversion » aux éditions Héliopole. Et vous venez de publier aussi « Il était une bergère, témoignage » aux éditions Rouergue. Alors dans ce livre, Yves Deloison, vous racontez l'histoire de Stéphanie Maubet, une bergère de 34 ans, née en plein cœur de Paris et qui a décidé de tout lâcher pour s'installer dans les prés salés de la baie du Mont-Saint-Michel. Qu'est-ce qui a poussé cette femme à effectuer ce changement de vie assez radical?
C'est un concours de circonstances. Elle a gagné un voyage dans le Cotentin, là où se trouvent les prés salés. Elle a difficilement accepté ce voyage parce qu'au départ elle n'avait pas envie de partir. Mmh. Elle avait d'autres choses à faire en ville. Et puis elle y est allée. Elle a rencontré un éleveur. Elle a surtout rencontré des moutons et des agneaux. Elle est tombée totalement amoureuse, mais immédiatement. De cet univers et de ces animaux.
Alors qu'elle venait d'un milieu tout à fait différent, professionnellement, elle travaillait sur les plateaux de télévision, hein, je crois.
Alors elle travaillait dans l'audiovisuel, elle faisait du graphisme.
On vous a perdu, dis donc. Elle travaille dans l'audiovisuel, nous aussi, mais en ce moment, on a des problèmes techniques. On aura la suite de l'histoire avec vous, Yves Deloison, dès que la communication sera rétablie. Christelle Capochichi, vous, dans votre ouvrage également, vous parlez de nombreux témoignages de gens qui ont décidé d'opérer ce changement à 180 degrés. Donnez-nous quelques exemples emblématiques de personnes que vous avez rencontrées.
Ça peut paraître ample, être Aurélien qui était infographiste et qui tout simplement ne supportait plus de rester devant son ordinateur et qui s'est souvenu que quand il était petit, eh bien, il aimait beaucoup fréquenter l'atelier de son grand-père qui était menuisier amateur, hein, ce n'était pas forcément son métier. Et puis quand il a commencé à se poser des questions sur lui-même, il s'est dit bah voilà, ce métier du bois, c'est quelque chose vers lequel j'ai envie de retourner. Et donc il s'est engagé dans une reconversion. Il l'a quand même fait confirmer par un bilan de compétences. On lui a dit effectivement, allez-y, un an de formation. Et puis qu'il l'a mené encore plus loin qu'il ne le pensait, puisqu'en fait, il s'est retrouvé tout simplement au Québec par le jeu des circonstances. Donc à la fois une reconversion professionnelle, mais aussi un changement de lieu de vie. Bon, après quelques péripéties, il a dû revenir en France parce qu'il s'est fait expulser, parce qu'il n'avait pas été très vigilant sur ses papiers à mettre en ordre. Mais il est retourné au Québec et ne regrette absolument pas ce changement de vie. Mmh. Voilà. J'ai aussi quelqu'un qui avait travaillé dans la banque, qui est devenu boulanger. C'est quelque chose de très classique désormais. Voilà. Donc des profils vraiment très 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 différents, des gens qui passent j'ai une technicienne de laboratoire qui va se reconvertir dans le secteur médico-social. Des gens qui ont souhaité se mettre en accord avec eux-mêmes, retrouver du sens à leur métier. Ça peut être notamment le cas lorsque on se dit bah, ce que je fais n'a plus aucun sens. J'ai pu m'engager dans tel métier en y croyant réellement et puis les choses ont évolué, moi-même j'ai changé et la question de la reconversion ou du changement de lieu, c'est vraiment se remettre en accord avec ses désirs profonds, remettre du plaisir dans sa vie, tout simplement.
Alors, vous dites il y a des changements radicaux qui sont devenus presque classiques. Mais Philippe Gabillet, on cite souvent ces exemples de traders devenus apiculteurs. Je dis un peu au pif, mais c'est le genre de grands écarts qui peuvent fasciner. Est-ce qu'ils sont si fréquents que ça, ces grandes directrices qui deviennent puéricultrices, ces changements du tout au tout?
Non, ils sont pas si fréquents que ça. En revanche, les exemples que l'on a sont tellement merveilleux qu'on tend à en faire aussi des figures emblématiques de l'époque. Et je pense que toutes les belles causes ont leur mythologie et leur héros. Et je pense que le changement de vie, qui est une très très belle histoire, a aussi les siennes. Et ça veut dire d'ailleurs que celui qui va voir ou qui va entendre parler dans la presse du trader qui est devenu apiculteur, ou moi j'en ai rencontré un récemment qui était un ancien directeur informatique et devenu un très très grand boucher... En fait, on se dit, voilà, j'ai dans le fond le droit d'espérer ça, d'autres l'ont fait, pourquoi pas? Et pourquoi pas moi, et pourquoi pas tout de suite, quoi. Donc, on est dans une... Il y a un imaginaire autour du changement de vie, mais que je trouve assez positif, dans le fond, parce que dans un monde qui est par ailleurs extrêmement contraint, où, qu'on le veuille ou non, le socialement correct, la pression des déterminismes sociaux, culturels reste forte, voilà, il y a des histoires autour de nous qui donnent envie de se donner le droit.
Et parmi ces histoires, Yves Deloison, on vous a retrouvé, il y a l'histoire de cette bergère du Mont-Saint-Michel, qui était... avant sur les plateaux audiovisuels à Paris. La reconversion, là, ça fait partie des reconversions effectivement assez spectaculaires. Ça s'est passé rapidement, facilement. Comment on change comme ça d'univers professionnel?
Non, ça s'est pas passé rapidement ni facilement parce que un changement aussi radical nécessite tout un tas de d'éléments ou tout un tas de d'énergie, enfin etc. Il faut mobiliser énormément de moyens. Il faut déjà y croire, il faut déjà avoir envie, il faut que ça ait du sens. Et puis ensuite, il faut trouver les moyens de concrétiser, de réaliser. Alors, il y a toute une offre possible. Dans le cas de Stéphanie, par exemple, ce qui était essentiel, c'est qu'elle puisse se former. Donc, elle est allée beaucoup sur place, bien avant de se former d'ailleurs, pour vérifier que ce qu'elle vivait, ce qu'elle ressentait, c'était réellement ancré et inscrit et que ça pouvait l'engager dans l'avenir. Et puis, à partir de là, une fois qu'elle avait vraiment la conviction que c'était chevillé au corps, elle s'est engagée dans une formation qui a duré un an, et puis il a fallu monter son projet en tant que tel, parce que créer un projet agricole aujourd'hui, ça n'est pas simple du tout. Il y a énormément de contraintes, etc. Et puis elle a eu des bâtons dans les roues, son environnement proche au niveau local n'a pas forcément été hyper open au départ, il l'est beaucoup plus aujourd'hui, mais tout ça, ça a pris beaucoup de temps. Aujourd'hui, là, elle peut dire qu'elle est à un stade où elle a réussi son implantation, et ça fait maintenant 11 ans qu'elle est sur place.
Sébastien nous a rejoint, il a composé le 01 45 24 7000. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Alors, vous avez changé de vie, c'est ce que vous vouliez nous raconter?
Ah oui, alors très souvent.
Ah
j'ai
oui.
changé depuis l'âge de 20 ans à peu près. De imprimeur sérigraphe, je suis devenu comédien formateur, décorateur. Et puis peintre en bâtiment, éducateur spécialisé, accrocheur d'œuvres. J'ai changé de région aussi. Je suis de Picardie. Je suis parti travailler à Paris pendant 10 ans. Et puis ensuite, j'en ai eu marre de bosser comme un sauvage. Donc, je suis parti à la campagne. Voilà, dans la Nièvre. Et de la Nièvre, j'ai continué à être éducateur. J'ai continué la peinture. Et je suis devenu cuisinier aussi.
Alors, Sébastien, si c'est pas indiscret, vous avez quel âge?
J'ai 45 ans.
Mais alors, vous avez fait tout ça en une vingtaine d'années? C'est-à-dire qu'il y a certains métiers que vous n'avez exercé que 6 mois. On a presque l'impression que vous papillonnez. Vous êtes un éternel insatisfait ou vous êtes un gourmand de tout?
Un peu des deux. J'avoue que je change de métier quand je m'ennuie. Quand je m'ennuie dans un métier, par exemple, j'étais à mon compte en tant que peintre en bâtiment, et comme je passais mon temps tout seul sur les chantiers, je commençais réellement à m'ennuyer. Du coup, j'ai cherché des amis avec qui on a monté une boîte d'accrocheurs d'œuvres, monteurs d'exposition, par exemple. Et puis, oui, mais c'est ça. C'est souvent quand je m'ennuie, j'ai besoin de changer parce que j'arrive plus à travailler comme il faut.
Et ça se fait, Sébastien, à chaque fois sur un coup de tête, c'est-à-dire que vous foncez tête baissée sans trop préparer le terrain, ou est-ce qu'à chaque fois, c'est quand même, vous êtes devenu un peu un professionnel du changement et vous savez précisément comment vous y prendre pour pas vous planter?
Non, c'est souvent sur des coups de tête. Sur des coups de tête, c'est l'expérience qui fait que j'ai pas peur de changer, en fait. Ouais. Je sais que je me rattrape toujours, façon ou d'une autre.
Chapeau, en tout cas, pour ce témoignage, Sébastien. J'imagine que c'est un profil relativement rare, hein, quand même, Christelle Capochichi. Tendance, quand même, c'est d'avoir peur avant de se lancer. Il a l'air d'avoir peur de rien, Sébastien.
Alors, peur de rien, effectivement, et ça, je l'admire, parce que le changement, il ne faut pas non plus mésestimer les réticences et les craintes qu'il peut susciter. Mais tout cela s'apprivoise. Hein. C'est vraiment lorsqu'on décide de se placer dans une démarche de changement, on peut y aller étape par étape. Je donne quelques clés dans l'ouvrage, mais vraiment, c'est le changement. Il faut savoir que c'est quelque chose qui s'apprivoise. Il faut savoir qu'effectivement, aussi radical soit-il, il peut entraîner soit un autre changement, soit éventuellement revenir là où l'on était. Mais ça, c'est un cas plus rare. Et c'est vrai que pour les personnes que j'ai interrogées, et même de façon générale, le changement se prépare étape par étape. On prend le temps de le concevoir, mais après, il faut aussi apprendre à se laisser le temps de l'intégrer, ce changement. Une fois que l'on y est, lorsqu'on y a accédé, il ne faut pas se dire, ça y est, c'est fini, j'ai fait ce que j'avais à faire. Il faut aussi savoir qu'il y a tout un travail qui peut prendre du temps, là aussi. Hein, on parle parfois de 2 ans pour s'inscrire dans ce changement, le maîtriser, en mesurer toutes les données et après éventuellement en tirer le bilan. Ouais, voilà, alors, cette notion du temps est vraiment importante à prendre en compte dans la préparation et dans l'après.
Ouais, nous allons voir comment préparer, justement prendre le temps de réussir sa reconversion ou son changement de vie, quelles sont les bonnes questions à se poser. Vous donnerez des conseils très concrets à nos auditeurs qui peuvent bien sûr continuer d'intervenir, soit via la page de Grand Bien Vous Fasse sur franceinter.fr ou par téléphone au 01 45 24 7000. Cette émission est réalisée par Valérie Ayestaraï, elle a été préparée par Alexia Rivière, Julia Macarez et Denis Derra. Aujourd'hui, au standard, pour vous répondre, c'est Caroline et Théo, et à la technique, Charles Pélabon.
Un point précis sous le tropique du Capricorne ou du Cancer. Sous le soleil, exactement, juste en dessous. Dans quel pays, dans quel district, c'était tout au bord de la mer. Sous le soleil, exactement, juste en dessous. Était-ce là, Nouveau-Mexique, vers le Cap Horn, vers le Cap Vert? Sous le soleil, exactement, juste en dessous. C'est sûrement été à n'importe où, sous le soleil, exactement, juste en dessous.
C'était Sous le soleil exactement de Anna Karina.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Changement de vie et reconversion au centre de nos discussions ce matin. Comment s'y prendre quand on a l'impression que l'on s'est trompé de chemin et qu'il est grand temps d'effectuer un virage à 180 degrés pour ne pas passer à côté de l'essentiel? On en parle avec nos invités, tous les trois auteurs d'ouvrages sur le sujet. Il y a Christelle Capochichi, médiatrice littéraire, Philippe Gabillet, professeur de psychologie, et Yves Deloison, journaliste et écrivain. Christelle Capochichi, la crise actuelle va-t-elle inciter les gens à se lancer ou au contraire les inciter à la prudence selon vous? Est-ce que l'on va renoncer ou en tout cas mettre entre parenthèses ces projets de changement de vie?
Alors là, ça dépend, je dirais, de l'appréhension que chacun a vis-à-vis du changement. Parce qu'effectivement, ce changement que nous venons de vivre, qui nous a été imposé, peut aussi bien amener les personnes à se replier sur elles-mêmes que se dire, ben non, justement, c'est le moment de vivre vraiment la vie que j'ai souhaitée et après cette période de contrainte, reprendre les choses en main. Donc, et je pense notamment à toutes les personnes qui ont pratiqué le télétravail et qui vont peut-être découvrir une autre façon de un autre rapport au travail, ou alors à celles qui ont eu, lorsqu'elles étaient citadines, la chance de pouvoir aller vivre ailleurs et d'expérimenter une nouvelle vie. Alors ces deux axes qui me semblent assez importants dans ce qui vient de se passer ne sont pas exemptes de chausse-trappe. Mm-hmm. Tout le monde n'est pas fait pour le télétravail et la vie au grand air, à la campagne qu'on a pu apprécier pendant le confinement, avec un confinement parfois de luxe, peut ne pas convenir à tout le monde. Et là aussi, il faut vraiment revenir sur ce qui nous motive profondément, sur les changements que l'on veut mettre en œuvre. Alors, voilà, une période qui ouvre tous les possibles quand même.
Quelles sont, Yves Deloison, justement, les bonnes questions à se poser pour ne pas faire fausse route? C'est vrai que un séjour à la campagne pour quelques semaines, ça fait du bien. Pour plusieurs années, peut-être que finalement, ça ne nous conviendrait pas. Comment on fait pour être sûr qu'on ne se trompe pas et qu'il n'y a pas en fait un effet de miroir aux alouettes, Yves Deloison?
Ce qui est vraiment essentiel, c'est toujours d'éprouver une réalité. C'est-à-dire que là, effectivement, des gens étaient contraints de vivre différemment, tout a été bousculé, certains sont partis vivre là où c'était possible, en dehors de leur lieu habituel, par exemple. C'était une manière de l'éprouver, mais c'était particulier, c'est pas un quotidien ordinaire. C'est vrai que la meilleure des solutions, c'est d'abord effectivement de faire un travail d'introspection, donc de se poser un certain nombre de questions sur ses envies profondes. Alors, parfois, ça paraît un peu complexe comme ça, dit de cette manière, mais ce sont des questions souvent assez simples, assez basiques au départ, c'est-à-dire des situations, des types de situations idéales dont on aurait envie. Ce serait d'imaginer son quotidien à l'extérieur, à l'intérieur. Le télétravail, c'est une forme. Il y a plein d'autres solutions pour travailler que le télétravail. Et puis ensuite, d'aller sur le terrain pour vivre et expérimenter. Alors, si c'est géographique, il faut se déplacer. Et puis après, si c'est une forme professionnelle ou un type de travail, un métier, il faut pouvoir l'éprouver par des tests, des évaluations, par des stages, etc. Mmh.
Philippe Gabillet, vous compléteriez comment cette réponse sur les bonnes questions à se poser avant de se lancer?
Alors moi, je dois dire que le point de vue du psy ou du coach par rapport à ça, il est parfois, je dois dire, un peu différent. Parce que ce qui caractérise beaucoup des approches sur le changement de vie, c'est qu'on a l'impression que, d'abord, c'est un truc extrêmement individualiste, c'est l'individu qui se dit, voilà, moi, la vie que j'ai me convient pas, j'aime moins la vie que j'avais, et donc je veux avoir une vie, j'en mérite une autre, et donc on se projette vers le futur. Et donc, en se projetant sur le futur et en pensant à soi en priorité, on oublie le passé et le présent, et on oublie les autres. Mmh. Donc là, moi, c'est un point qui est clair. Le point de départ d'une réflexion sur le changement de vie, c'est aujourd'hui, comment je suis arrivé là où je suis? comment je suis parvenu à l'endroit où je suis aujourd'hui, parce que là où je suis aujourd'hui, c'est quand même moi qui m'y suis conduit. Donc, on devient, si vous voulez, ce qu'on fait avec récurrence. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de façon récurrente depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et qui m'a conduit là où je suis? Il faut être très, très, à mon avis, clair là-dessus. Donc, déjà, bien comprendre qu'est-ce qu'il faudra faire bouger, le delta qu'il faudra créer, en quelque sorte, là-dedans, pour changer. Et puis après, il y a les autres. C'est-à-dire que un changement, c'est une création collective, sauf celui qui dit, voilà, je plaque tout, je plaque amis, femmes, mari, enfants, etc., et je pars à l'autre bout du monde et je deviens pêcheur de perles. Mais le réel, la vie réelle, c'est pas ça. La vie réelle, c'est je vais prendre une décision de modification d'un territoire, de mes relations avec autrui, voire même d'une perspective intérieure. Et cette bifurcation-là va créer ou pas, une reconfiguration de ma vie, etc. Mais je ne ferai pas ça tout seul. Qu'est-ce qui généralement, d'ailleurs, empêche ou ralentit le changement de vie? C'est le rapport aux autres. Vous me parliez, l'enquête dont on parlait tout à l'heure, j'avais retrouvé les chiffres pour l'émission. Ouais. Les peurs qui empêchaient, quand on dit, mais qu'est-ce qui vous empêche de changer de vie? Il y a effectivement les peurs matérielles au sens perte de confort, etc., perte de sous, perte d'argent, 56%. Et immédiatement derrière, 45% les peurs relationnelles, mon environnement, mon entourage, ma famille, etc. La peur de l'échec, en fait, n'arrive que bien après, hein. C'est 27%, donc c'est l'aspect relationnel. Je dis à des gens que je suis, voilà, imaginez, demain, on va faire un bel exercice. Allez, regardez-moi, vous avez changé de vie, madame, monsieur, vous avez changé de vie. Réfléchissez bien. Est-ce que ça risque de faire de la peine à quelqu'un? Et là, tout d'un coup, beaucoup de gens commencent à regarder leur godasse en disant « Ah ben oui, parce que si on oublie les autres, on peut faire absolument ce qu'on veut. Ouais. » Mais voilà, pour se rester dans la lucidité et agir, c'est intéressant de se souvenir d'où on vient et surtout avec qui on voudrait continuer à être.
Christelle Capochichi, ça peut être un frein ou au contraire stimulant le regard des autres sur le projet de reconversion ou de changement de vie que l'on a?
Il est très important, en effet. D'ailleurs, pour le sous-titre de mon livre, c'est bien en solo, en duo ou en famille.
Et parce que
cette dimension, je suis vraiment d'accord avec Philippe Gabilly, elle doit être vraiment prise en compte. Et justement, il y a ce côté très paradoxal dans le changement de vie, c'est que effectivement, il faut quand même revenir au changement profond vers quoi on souhaite aller, mais il faut le faire avec son conjoint, sa conjointe, si on est en couple, avec ses enfants, etc. Et j'explique comment justement faire participer, parce que ce n'est pas simplement emmener tout le monde à son corps défendant.
Il faut qu'ils adhèrent au projet, en fait, les proches ou les membres de la famille, évidemment. On ne peut pas traîner tout ce monde-là de force.
Ils en sont partie prenante et il faut s'assurer que chacun y trouvera bien son compte, que la personne qui partage votre vie trouvera un métier, un poste à sa valeur, à sa hauteur sur place, que l'un de vous n'est pas absolument réfractaire au nouveau lieu de vie que vous allez choisir. Et donc voilà, ce changement de vie, effectivement, il ne se conçoit jamais tout seul. Et c'est aussi tout à fait vrai dans le changement de profession. Notamment pour les personnes qui souhaitent créer leur propre activité, parce que c'est un courant aussi qui s'accentue. Et là, j'insiste bien sur la nécessité de ne jamais rester seul, d'avoir toujours des interlocuteurs qui peuvent vous guider, vous accompagner, et puis vous offrir aussi ce regard sur votre parcours, vous titiller sur les véritables raisons pour lesquelles vous voulez établir ce changement.
Allez, on retourne au standard. Bérénice, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous vouliez nous faire partager votre expérience. À vous, vous avez une reconversion professionnelle?
Oui, mais en fait, moi, il y a une petite dizaine d'années, j'ai quitté le monde du marketing et de la communication. Je travaillais dans une multinationale et je suis devenue, en fait, psychothérapeute à Aix-les-Bains. Donc, en fait, parallèlement à mon travail de salarié, je me suis formée pendant 4 ans à la psychothérapie en ayant éventuellement le projet de quitter en fait ce statut quand même très sécurisant de salarié. Voilà, c'était éventuellement un projet. Et puis ce projet est devenu réalité. Alors, effectivement, un de vos intervenants parlait du travail d'introspection pour bien réfléchir à nos désirs, à ce qu'on souhaite vraiment faire. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai réalisé pendant ma formation en fait de psychothérapie. Et ce qui m'a permis de valider que j'avais envie de faire un travail qui a davantage de sens, en accord avec mes valeurs et de quitter cet univers capitaliste. Maintenant, c'est pas simple, effectivement, hein, quitter le monde du salariat, c'est effectivement son salaire qui tombe à la fin du mois. Devenir son propre patron, bah, c'est créer son salaire, donc il y a effectivement une peur. Et moi, j'avais préparé finalement ce changement au niveau financier, j'avais mis de l'argent de côté pour ne pas avoir trop d'inquiétude de ce côté-là. Et finalement, là où j'ai eu de l'inquiétude, c'est, enfin, ça va vous paraître bizarre, parce que c'est une denrée qui est rare aujourd'hui, c'est que j'avais du temps. J'avais du temps, le téléphone ne sonnait pas énormément au début, bien sûr, pour développer mon activité. Et puis au fur et à mesure, voilà.
Et ça vous a aidé finalement au début de ne pas être tout de suite sollicité, de ne pas tout de suite être dans le grand bain, finalement, que ça démarre doucement. Ça vous a plutôt aidé qu'autre chose. Ça ne vous a pas découragé.
Ça a été un sas parce que je quittais ce monde de la multinationale, j'avais été maltraitée, je ne vais pas développer tout mon parcours, mais j'ai eu du harcèlement moral qui a été le coup de pied. Qui m'a permis finalement de quitter ce monde, parce qu'il y avait quand même une peur. Et finalement, j'ai pu transformer cette expérience malheureuse, puisque aujourd'hui j'accompagne énormément de personnes qui subissent cela.
D'accord.
Qui subissent la souffrance au travail.
Vous aidez à votre tour les gens à changer de vie et à se reconvertir. La boucle est bouclée. Merci Bérénice. Philippe Gabillet, il y avait cet aspect financier. C'est vrai que c'est important aussi, ça doit faire partie des peurs. Si je quitte mon métier actuel, comment continuer à vivre et à faire avec un salaire peut-être moindre, au moins au début, Philippe Gabillet?
Oui, sachant que dès l'instant où on rentre dans ce questionnement-là, il faut peut-être aussi se réinterroger sur son désir réel de changer, et voir que c'est pas uniquement un fantasme. Mmh. Moi, ça m'avait fait beaucoup rire, et j'avais vu toujours dans une étude, que quand même 5% des gens, quand on leur demandait qu'est-ce qui vous empêcherait vraiment de mener à bien votre projet de changement, ils avaient répondu, je cite, « je suis pas sûr du soutien de ma banque ». Alors, si vous voulez, quand on part comme ça, ça veut dire qu'on est quand même un aventurier un peu en mode, vous voyez, voilà, un peu, bon, petit truc. On peut pas changer, c'est aussi accepter de prendre un certain nombre de risques, de paris. Pourquoi pas d'ailleurs parfois de renoncer à des choses. Moi je dis souvent, en matière de changement de vie, tout commence par une fin et finira par un commencement. C'est-à-dire qu'on est dans une logique de cycle. À quoi suis-je prêt? Il y a deux questions clés quand même quand on veut changer de vie. Un, qu'est-ce qui ne doit pas changer dans ma vie de demain? C'est-à-dire quels sont les éléments que j'ai aujourd'hui dans ma vie et sur lesquels je ne veux pas négocier? Il faudra que ces éléments-là soient là demain. Ça peut être des éléments relationnels ou matériels. Oui. Et en revanche, derrière, à quoi je suis prêt à renoncer? Je sais plus qui est, je crois que c'était un exemple qui a été donné par Bertrand Piccard qui disait que quand on fait de la montgolfière, à un moment donné, si on veut continuer à monter pour trouver le bon courant, il va falloir jeter des choses dans la nacelle. Ouais. Ben voilà, ça s'appelle la vraie vie, quoi. Ouais. En revanche, vouloir continuer, changer de vie en ayant quand même l'ensemble des éléments de confort que j'ai dans la vie actuelle, c'est un projet, on va dire, qui est risqué, en tout cas, en termes d'aboutissement, me semble-t-il.
Pour terminer, on arrive déjà à la fin de cette discussion. Yves Deloison, vous aussi, en 30 secondes, le dernier conseil que vous pourriez donner aux auditeurs avant de se lancer, en tout cas ceux qui souhaiteraient changer de vie.
Oui, c'est vraiment l'anticipation, c'est-à-dire que je rejoins ce qui a été dit précédemment. On est forcément engagé sur un parcours qui va modifier certainement fondamentalement des choses et pas uniquement l'aspect financier. Et l'anticipation, c'est en préparant son projet, avoir conscience de tout ce que ça va générer, entraîner. C'est déjà aussi se préparer à une baisse de revenus, par exemple. Effectivement, si un projet a du sens pour quelqu'un, la baisse de revenus, elle peut se compenser différemment. Mais c'est un ensemble et c'est global. Effectivement, il y a une famille, il y a une cellule, il y a tout un tas, il y a une organisation et tout ça est remis en cause. Donc l'anticipation, ça permet de s'y préparer grandement.
Merci à tous les trois. Je rappelle les titres de vos ouvrages respectifs. Christelle Capochichi, libre de changer de vie en solo, en duo ou en famille, s'installer ailleurs et travailler autrement. Philippe Gabillet, l'art de changer de vie en 5 leçons aux éditions Saint-Simon. Et Yves Deloison, Il était une bergère, témoignage aux éditions Rouergue. Un grand merci à vous. À venir dans Grand Bien vous fasse, le temps de réfléchir et de philosopher avec Aïda Ndiaye et puis la chronique d'Alex Vizorek, bien sûr. Too many exist out on the open world. Hey Hey, c'était Other Lives.
France Inter. Grand bien vous fasse. Daniel Fievé.
Bonjour Aïda Ndiaye.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie, chroniqueuse régulière dans cette émission et nous allons prendre le temps de réfléchir et de philosopher un peu avec vous ce matin.
Oui. Alors je ne sais pas si ça vous fait ça aussi, mais je trouve qu'il a un petit goût de vague à l'âme ce printemps déconfiné. Mmh. Pourtant, c'est peu de dire que je l'ai attendu et que j'en ai rêvé du retour à la normale. Seulement voilà, on est bien obligé de constater qu'on n'est pas du tout revenu à la normale en fait. Et pas seulement parce que les bars et les cinémas n'ont pas rouvert. Que nous ayons vécu un confinement heureux ou éprouvant, que l'on ait repris les trajets quotidiens pour le travail ou pas, que nos enfants aient retrouvé le chemin de l'école ou continuent la classe à la maison, il y a, je crois, une étrangeté particulière à cette situation que, pour ma part, j'éprouve vraiment intimement. Mais alors, d'où vient cette sensation d'être comme titubant dans notre liberté retrouvée? Eh bien, je pense que nous avons tous vécu une rupture, au sens où l'entend la philosophe Claire Marin, dans son très bel essai intitulé justement Rupture, et paru en 2019. Une rupture, ce n'est pas seulement une rupture amoureuse. Claire Marin nous parle aussi du deuil, de la maladie ou de la naissance d'un enfant, c'est-à-dire de tout ce qui constitue une bifurcation de notre existence. Là où nous pensons notre histoire et notre identité comme linéaires, la réalité est en fait tout autre. Il y a une discontinuité fondamentale lorsque surviennent ces événements de la vie, heureux ou malheureux, voulus ou subis. Je ne parle pas seulement de ceux dont la vie aura été effectivement bouleversée par la pandémie, ceux qui auront été gravement touchés par la maladie ou qui auront perdu leur emploi ou un proche sans pouvoir en faire pleinement le deuil, par exemple. Pour cela, bien entendu, le retour à la normale est impossible. Je ne parle pas non plus des interrogations plus générales que l'on peut avoir sur ce qui changera ou pas dans le fameux monde d'après. Non, je parle d'un bouleversement profond et intime, ce qui fait que nous avons tous, un peu ou beaucoup, vacillé dans notre être. Le médecin et le philosophe des sciences Georges Canguilhem le disait déjà dans Le normal et le pathologique, la vie est un équilibre toujours précaire et l'effort permanent pour maintenir une certaine stabilité entre toutes les fonctions qui la constituent. Le normal, pour Canguilhem, ce n'est donc pas la moyenne au sens où on l'entend d'ordinaire. Le normal, c'est justement cet équilibre qui permet d'intégrer les anomalies pour perpétuer la vie en faisant avec tous ces dérèglements. Dans ce sens, le retour à la normale est donc d'un côté inévitable, car nous n'allons pas cesser de vivre et nous trouverons donc un nouvel équilibre, un nouvel état normal. Mais dans le même temps, ce retour à la normale est impossible, car par définition, nous ne serons plus jamais nous-mêmes, nous ne sommes déjà plus ceux que nous étions, notre rapport au travail, à l'espace, au temps, à nos proches a changé, notre corps a changé, en bien ou en mal d'ailleurs, et l'aspiration folle à une boucle qui pourrait se clore en nous ramenant exactement là où nous étions à son commencement est totalement illusoire. Et c'est donc exactement cela que Claire Marin analyse, il y a une rupture car nous sommes sortis de notre axe, et cette rupture est d'autant plus nette qu'elle a été extrêmement brutale en fait. C'est un peu comme si nous étions fait quitter du jour au lendemain et par texto par notre ancien moi qui se serait fait la malle d'un coup à l'annonce du confinement. Ce que veut nous dire Claire Marin, c'est donc qu'on perd inévitablement une part de nous-mêmes dans toute rupture, même choisie. Pas étonnant alors que j'éprouve un peu de mélancolie, mais allez, soyons optimistes Daniel, cela signifie aussi que la normale est bel et bien devant nous, même si ce ne sera pas un retour à la normale d'hier, mais une avancée vers la normale de demain.
Merci Aïda Ndiaye, nous allons pouvoir méditer cette réflexion et puis contre le vague à l'âme dans un instant, Alex Vizorek va nous aider. Je rappelle Aïda que vous avez publié les 16 textes clés pour réviser le bac philo aux éditions Ellipse. À très bientôt Aïda.
Au revoir.
Allez, dans un instant, préparez-vous. Alex Vizorek débarque dans Grand Bien Vous Fasse, vous avez quelques minutes encore pour vous préparer.
Du temps de nos confinements, j'étais triste et hagard, ne sachant plus vraiment si les jours reviendraient des grands rires et du vent. Tu m'as dit doucement qu'on avait en deux temps toutes les solutions à nos questionnements. Des choses. solution à nos questionnements. Reprends l'amour comme on croit au printemps. Reprends la vie comme on croit aux enfants. Reprends chacun comme on croit au présent. Reprends ton cœur comme on croit aux absents. Des jours de nos confinements, j'avais les larmes aux yeux, ne sachant plus vraiment si les jours nous rendraient plus aimés, plus aimants. Tu m'as dit tendrement que j'avais maintenant toutes les réponses à mes questionnements.
Roi au printemps, c'était M sur France Inter.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Et bonjour Alex Vizorek.
Bonjour Daniel Pierre, comment allez-vous?
Ben ça va bien, et vous, vous avez une bonne voix, j'ai l'impression.
Écoutez, ça me fait plaisir. Écoutez, il y a deux semaines, sur cette antenne même, se déroulait une journée spéciale culture. Vous vous en souvenez, nous déplorions l'annulation des festivals, la fermeture des théâtres, le report de la tournée de Yannick Noah. Bref, l'antenne était dédiée à une cause noble qui allait manquer aux auditeurs d'Inter. Alors aujourd'hui, je voudrais défendre un autre milieu dont l'auditeur d'Inter se cogne un peu, c'est le sport. Le sport aussi doit enfourcher le tigre, et je sais Daniel que vous aimez le sport,
ah oui.
Même si votre corps nous rappelle régulièrement avec la pudeur qu'on lui connaît, voilà que.
Et encore, vous m'avez pas vu depuis longtemps.
Et c'est ça. Mais je parle pas de ce sport-là, je parle du sport spectacle. Car oui, je fais partie de ces gens, on n'est pas beaucoup, qui apprécions une phrase d'Anton Tchekhov comme une frappe d'Isto Stoïkov, qui aimons le bûcher des vanités et la coupe des vices, qui aimons la grande bouffe autant que la grande boucle. Bref, de ceux qui peuvent partir chez le libraire pour acheter et Télérama et France Football et revenir avec leur enfant commun, sauf foot. Bref, on existe, nous aussi, les beaufs de gauche, les bobos, j'ai envie de dire. Et ce week-end, c'était le début de notre déconfinement. Daniel, vous connaissez peut-être cette phrase de Gary Lineker qui dit « Le football est un sport qui se pratique à 11 contre 11 et à la fin, ce sont les Allemands qui gagnent ». Eh bien, avec la crise actuelle, on peut réécrire cette phrase et en faire « Le football est un sport qui se pratique à 11 contre 11 et à la fin, il n'y a que les Allemands qui y jouent ». Car samedi, eh ben oui, j'ai regardé la reprise du seul championnat en Europe, j'ai regardé Dortmund-Schalke. Quel plaisir de regarder un match de foot sans en connaître le résultat. Alors évidemment, le huis clos a rendu la chose extrêmement bizarre. C'est la première fois que dans un stade de première division, j'entends, il y a une ambiance aussi feutrée qu'au théâtre de la Colline. D'ailleurs, j'adorerais qu'un jour on assiste à l'inverse, que lors d'une représentation d'Antigone, tout le public lui chante « You never walk alone ». J'imagine Antigone se retourner et applaudir ses supporters. Bref, ce silence dans le stade qui nous a permis d'entendre les joueurs s'adresser les uns aux autres. Et là, le grand gagnant fut le français Todibo, qui conseilla dans la langue de Molière au norvégien Haaland, comment dire poliment, il lui conseilla d'aller découvrir le Kama Sutra avec sa grand-mère, les beautés du sport. Évidemment, c'était pas ma plus belle après-midi devant ma télévision, mais c'était un début aussi enthousiasmant qu'inquiétant. Si le sport doit subir les mêmes adaptations que la culture, il a été demandé aux artistes de se produire dans les écoles. Va-t-on demander aux joueurs de curling de venir prester dans les gares avec un peu de gel hydroalcoolique au bout de la brosse, comme ça, vas-y, désinfecte-moi le sol. De même, les mises en scène de certaines pièces doivent être réorganisées pour que les acteurs se touchent moins. D'accord, mais on n'est pas prêt de revoir du rugby. Et comment imaginer le Tour de France si les déplacements sont limités à 100 km autour du domicile? Attention, attaque de Pinot. Pinot, il est parti. Il est parti sur le gros braquet. Pinot. Pinot descend du vélo. Ah oui, eh oui, il habite la Haute-Saône et il ne peut donc aller plus au nord qu'Épinay-sur-Moselle. Oh là là. Vous voyez, ça ne va pas.
Non, ça
va sans parler du public qui, comme dans les théâtres, devra respecter des gestes barrières. Imaginez un tiers du stade. Il n'y a qu'à Monaco qu'on est entraîné depuis 40 ans à vivre dans des conditions pareilles. Certains sportifs l'ont même dit à quoi ça sert, qu'on reste et qu'on preste si le public n'est pas là. Moi, j'ai pas la réponse, mais j'imagine qu'à Europe 1, ils ont des idées pour arriver à se motiver dans ces circonstances. Alors, Je suppose bien que certains sports plus Covid-friendly recommenceront avant d'autres. Mais lesquels? Il y a cette théorie intéressante qui dit que le saut à la perche a été inventé pour permettre de pratiquer le saut en hauteur en respectant les gestes barrières du temps de la grippe espagnole. Moi, j'y crois, sinon je vois vraiment pas qui aurait pu inventer cette discipline. Mais même le saut à la perche pratiqué par des minimes au Liechtenstein, je regarderai pour vivre le plaisir de la merveilleuse incertitude du sport. D'ailleurs, dans cet été sans JO, la phrase de Coubertin prend absolument tout son sens. L'important sera déjà de participer.
Merci Alex Vizorek et à mardi prochain. En deuxième heure, nous avons rendez-vous avec l'astrophysicien Hubert Reeves qui partagera avec nous son regard sur la période que nous traversons. Et puis, nous nous intéresserons au néologisme, ces nouveaux mots qui émergent dans la langue orale et qui se feraient un chemin jusque dans nos dictionnaires. À tout de suite.